Éternel notre Dieu, nous sommes assemblés ce matin pour élever ton nom et nous l'avons fait, Seigneur, avec joie, conduit par cette équipe de louanges, Seigneur. Mon cœur s'est élevé vers toi. Les louanges de mes frères et sœurs m'ont rappelé que tu règnes, que tu es Seigneur sur cette nation, en toute terre, Seigneur. Tu règnes, Jésus. Oh, sois béni. Ce matin, nous venons devant toi dans les prochaines minutes pour pencher nos regards sur ta parole, cette parole que tu as inspirée par ton Esprit Saint, Seigneur. Viens l'appliquer à nos cœurs, oh Dieu. Sois avec moi, sois avec ton serviteur. Donne-moi de ne pas faire dire n'importe quoi à ta parole, mais conduis par ton Esprit Saint, appliquer cette parole avec puissance, afin que nos vies soient transformées et que nos vies soient à la mesure de ton amour pour nous, à la mesure de ce que tu es, Jésus-Christ, Seigneur et Maître en toute situation. Viens nous bénir ensemble ce matin. Et ceux, Seigneur, ici, qui sont encore dans les ténèbres, sous les griffes de l'ennemi, le cœur obscurci, ne connaissant pas Jésus-Christ, viens, Seigneur, et libère-les. Manifeste-toi, révèle-toi à eux ce matin. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. C'est vraiment un beau texte. J'ai été béni à étudier ce passage-là. Jésus est un personnage, il est une personne merveilleuse. Pour vous remettre un peu dans le contexte, puisque la semaine dernière, c'était François Turcotte qui enseignait. Pour vous remettre un peu dans le contexte, si vous regardez à partir des versets 18 et suivants, on est dans Matthieu 8. À partir des versets 18 et suivants, Jésus veut aller à l'écart. Il semble y avoir une certaine fatigue qui s'est installée. Le ministère est très, très, très intense. Jésus avait un ministère itinérant. Il voyageait. Les foules, littéralement, lui sautaient au cou lorsqu'il arrivait. Voulaient recevoir des miracles de lui, des paroles de sagesse. Il y avait une fatigue qui était là. Jésus nous a dit au verset 18, « Voyant une grande foule autour de lui, donne à l'ordre de passer de l'autre bord. » Alors, Jésus veut aller à l'écart. Il semble y avoir une fatigue qui est là. Et ça semble être un des facteurs. Donc, Jésus monte dans une barque et puis qu'est-ce qu'il fait? Bien, il s'étend, puis il s'endort. Et puis, il commence à dormir. Son corps parle. Il est humain aussi. Il s'endort, épuisé. Puis une tempête se lève. Jésus dort. Qu'est-ce que les disciples font? La chose la plus sensée à faire, paniquer! Ils vont voir Jésus qui est en train de dormir, puis ils disent, « Seigneur, sauve! » Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont pensé qu'ils allaient faire. Multiplier des pains, on va marcher dessus, je ne sais pas. Mais en tout cas, on va le réveiller, il dort, puis d'habitude, il y a une bonne réponse. Il saute dessus, il réveille. Jésus se lève, s'adresse au vent, s'adresse à la mer. Le calme revient. Les disciples, hein, comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Qui est cet homme? Mais qui est cet homme à qui les vents et la mer obéissent? Maintenant, n'oubliez pas, Jésus veut se retirer, c'est ça son objectif. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'aller dans un territoire essentiellement non-juif. Esther a lu le passage. Qu'est-ce qui me fait dire que c'est non-juif? La géographie, mais plus simplement que ça, il y a un troupeau de porcs. Il y a des éleveurs de porcs. Les Juifs ne mangent pas du porc. On est dans un territoire essentiellement non-juif, païen, d'accord? Et donc, en principe, Jésus devrait pouvoir prendre une pause. Si vous êtes familier avec les Évangiles, vous savez que Jésus, dans son ministère lui-même, a été premièrement envoyé vers Israël. C'est ses disciples qui vont aller vers les nations païennes. Jésus s'en va à l'écart. Maintenant, Jésus pose le pied en terre païenne et il y a des ténèbres là. Il y a deux démoniaques. Dès qu'il le voit arriver, le texte semble dire que c'est soudain. Lorsqu'il fut sur l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, verset 28, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Le ministère recommence. Jésus est extraordinaire. Il est fatigué. Il y a de la fatigue, ça n'arrête pas. Les demandes sont incessantes. constante, il veut se reposer. Dès qu'il arrive, ces démoniaques foncent vers lui. Les démons réagissent violemment à la présence de Jésus, sortent des tombes, se lancent à sa rencontre. Jésus est fatigué. Qu'est-ce qu'il va faire? Time. Je ne suis pas venu pour vous. Je vous enverrai les disciples dans quelques années. Jésus va s'occuper d'eux. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Nous ne devons jamais oublier que si Jésus-Christ est venu sur la terre, c'est parce que la priorité du Père, la priorité de Jésus-Christ, c'était d'aimer les hommes, de venir sauver les hommes. C'est sa préoccupation constante. Constamment, Jésus-Christ a ça à l'esprit. Il est fatigué, mais sa priorité, c'est d'aller sauver, arracher des âmes, des griffes du diable. Et là où il y a des ténèbres, Jésus-Christ va aller vers les hommes pour les sauver. Fatigue ou non, c'est sa priorité. Constamment. Glorifier le Père en sauvant des hommes. Constamment. Maintenant, Matthieu, qui a écrit cet évangile, lui voulait nous montrer quelque chose aussi sur Jésus, quelque chose d'autre. Il voulait nous faire découvrir qui est Jésus-Christ dans sa gloire, dans son autorité, dans sa grandeur. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous montre que Jésus-Christ règne partout sur la terre, pas juste en Israël. Jésus n'a pas autorité seulement qu'en Israël. Partout où il y a des ténèbres, en terre païenne, Christ a autorité. C'est un des messages que Matthieu veut nous dire ici. Là où il y a des ténèbres, Jésus-Christ se pointe et apporte la lumière. Il exerce un ministère. Où sont les ténèbres? Au cégep, Jésus-Christ a autorité. Dans votre milieu de travail, auprès de personnes qui sont indifférentes, semble-t-il, à l'Évangile, Jésus-Christ a autorité. À l'université, dans un milieu de haute connaissance où la foi est un sujet de raillerie, Jésus-Christ a autorité. Partout où il y a des ténèbres, Christ a autorité et vient exercer son ministère. Est-ce que c'est dans ta famille? Il y a des gens qui sont fermés. Tu vois leur cœur qui est dans les ténèbres. L'Évangile, c'est un sujet de moquerie. Tu crois dans ces choses-là? Vous n'êtes pas capable de concevoir comment la lumière pourrait pénétrer ces ténèbres-là. Jésus-Christ a autorité. C'est un des messages que Matthieu veut nous glisser ici. Jésus-Christ vient partout où le diable veut détruire des vies. Rappelez-vous de cela lorsque vous doutez de la puissance de Christ parce que vous pensez connaître le cœur des gens autour de vous. Et vous doutez de sa puissance. Christ a autorité. Un mot sur les démons. Il y a plusieurs personnes qui refusent de croire dans les démons, évidemment. C'est bizarre, c'est un phénomène psychologique. C'est un dérangement, on explique ça autrement aujourd'hui. C'est juste un phénomène psychologique. Dans le contexte du Nouveau Testament, c'est clair que Jésus y croyait, en tout cas. Et voyez-vous, si le diable n'existe pas, si les êtres spirituels n'existent pas, si la vie s'arrête à ce qu'on voit avec nos yeux, qu'est-ce qui me dit que Jésus-Christ est bien venu, qu'il est bien mort sur cette croix et qu'il est ressuscité d'entre les morts? Mais plus personnellement, qu'est-ce qui me dit que vous avez une âme? On est peut-être juste des rats. Juste des rats. On naît, on se multiplie, on s'entretue, s'entredévore et on meurt. Hier, on a fêté la fête de ma fille Jade. Quand je regarde ma petite fille, je vois plus qu'une bête qui naît, vit et meurt pour disparaître. Je suis désolé, j'y crois pas. J'arrive pas à croire. C'est pas mon expérience de l'être humain que nous ne sommes que des bêtes, sans âme. Mon expérience de l'être humain, mon expérience intime, c'est qu'il y a plus que ça dans l'homme. Il y a une aspiration à l'éternité. Il y a une conscience de Dieu, une conscience d'autre chose. C'est mon expérience à moi. C'est ma conviction profonde. Nous sommes plus que des rats. Nous avons une éternité. Et qui peut me parler de ces choses-là si ce n'est Jésus-Christ? Celui dont tant de témoins ont rendu témoignage qu'il était mort sur cette croix et qu'il était ressuscité d'entre les morts. Les gens qui se moquent de ces choses-là n'ont aucune conscience des combats spirituels. Et ce n'est pas des phénomènes seulement pour les pays où on pratique l'animisme, c'est de plus en plus présent ici. Alors revenons à Jésus et à ces hommes qui étaient possédés par des démons. Dès qu'ils voient Jésus, ils viennent à sa rencontre. Et ça ne devait pas être beau à voir. Vous avez deux êtres humains qui vivent dans des tombeaux, dans des sépulcres. Ces gens-là ne vivaient pas dans une maison ordonnée. Ils vivaient au milieu des cadavres. Et on sait pour les lectures qu'on en fait dans les Écritures que le diable n'a pas la réputation de bien traiter ses serviteurs, n'est-ce pas? Quand il prend possession d'un être, c'est pour le détruire, c'est pour l'humilier, c'est pour lui faire du mal. Ça ne devait pas être beau à voir, ça devait être assez macabre. En fait, ces deux personnages-là étaient tellement impressionnants que la communauté les avait abandonnés. C'est ça qui se passe? La communauté les a littéralement abandonnés. Les a abandonnés à leur sort, les a laissés là. Ils les fuient, ils sont violents, on ne fait juste pas passer par là. Mais ces gens-là ont une histoire. Ils ont été abandonnés parce qu'ils devaient être vraiment impressionnants. Alors, dès qu'ils voient Jésus, ils viennent vers lui, ils s'écrient, ils réagissent à Christ et ils disent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? » Et puis, ils vont aller jusqu'à dire, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau. » Voyez-vous, ces deux hommes sont possédés par des démons et les démons reconnaissent d'emblée l'autorité de Jésus-Christ. Ils le craignent. Ils le haïssent, mais ils le craignent. Et non seulement ils reconnaissent son autorité, mais ils reconnaissent son identité. On n'a pas d'indice dans le texte. Comment ça se fait qu'ils vont crier ça tout d'un coup? Fils de Dieu! Comment ça se fait qu'ils le connaissent? On connaît très, très peu de choses sur ce monde-là, n'est-ce pas? Mais eux savent qui il est. Ils disent, « Qu'y a-t-il entre toi, entre nous et toi, Fils de Dieu? » Ces démons savent qui est Jésus-Christ. En fait, selon le Nouveau Testament, si je comprends bien, tous les démons savent qui est Jésus-Christ. Ils en ont tous entendu parler. Ils savent, écoutez bien ceci, ils savent qu'il a pleine autorité sur eux et ils le reconnaissent comme le Fils de Dieu qui présidera à leur tourment. C'est ça qu'ils connaissent de Jésus. Dans la barque, les disciples, devant la manifestation de puissance de Jésus, s'exclament. Puis ils disent, mais qui est cet homme? Mais qui est cet homme à qui les vents et la mer obéissent? Les démons savent qui est cet homme. C'est celui qui un jour va présider à leur tourment. C'est lui qui va décider du jour où les choses s'arrêtent. Et en fait, ce qu'il crie, c'est « C'est pas le temps encore! » Lorsqu'il le voit arriver, c'est ça qu'il crie. « Non, c'est pas le temps encore! T'arrives trop tôt! On a encore le droit de continuer à détruire des vies, à faire ce qu'on fait de mieux, à passer le temps à détruire des vies. » Et par ces paroles des démons, ce que Matthieu est en train de faire, c'est qu'il est en train de nous ouvrir une fenêtre pour nous aider à faire un saut dans le temps. Il nous révèle qui est Jésus-Christ. Et il nous rappelle à ce moment-ci que même si Jésus est venu comme un simple homme, humblement acceptant d'aller jusqu'à la croix, mourir sur une croix, maltraité par les hommes, Même s'il est venu humblement, un jour, Jésus-Christ reviendra pour juger les vivants et les morts et les démons. On voit ça dans 2 Timothée 4, on voit ça dans Apocalypse 20. Il y a deux aspects au ministère de Christ. Sa première venue, au moment où ça se passe dans Matthieu 8, Christ vient avec humilité, il accepte tous les mépris. Ça devait se produire comme ça. Les prophéties de l'Ancien Testament l'avaient annoncé. Alors, voilà 2000 ans, Jésus-Christ vient les bras grands ouverts envers tous les hommes. Quand les démons le voient arriver, ils disent, « C'est pas le temps encore! Apocalypse 20 n'est pas arrivé encore! » Ah, ils n'ont pas tort. Et pourtant, si vous avez fait un petit peu d'eschatologie, le royaume commence, il n'est pas tout arrivé. Et les démons nous rappellent ici qu'un jour, un jour, Jésus-Christ va revenir dans sa gloire. Pas de la même manière. Pas de la même manière. Mais pour juger les vivants et les morts. Voyez-vous, les démons voulaient que Jésus les laisse faire ce qu'ils font de mieux, détruire des vies. Laisse-nous continuer à tourmenter, car ils savent déjà leur fin. Selon les Écritures, les anges déchus qui ont suivi le diable n'ont pas aucune opportunité de salut. Leur fin est déjà connue. Ils ne font que passer le temps. Ce n'est pas la même chose pour nous. Nous avons été créés à l'image de Dieu, être humain. Et Dieu, dans sa grâce, a envoyé son Fils. Nous n'avons pas à vivre cette vie qu'en attendant d'aller de l'autre bord vers un jugement éternel. Qu'en espérant que notre âme va être annihilée, détruite et qu'il n'y a rien de l'autre bord. On n'a pas à vivre comme ça, en attendant la mort. Christ nous appelle à vivre maintenant dans l'espérance qu'il va nous accueillir les bras grands ouverts. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. De ce côté-ci de l'éternité, Jésus-Christ a les bras grands ouverts pour chacun d'entre nous. Il est venu, il a donné sa vie en sacrifice, ressuscité d'entre les morts le troisième jour. Et à tous ceux qui croient en lui, le pardon est assuré. À ceux qui ont cru en lui, il donne l'espérance que lorsque nous mourrons, en fait, ce n'est qu'un passage et nous sommes accueillis dans sa présence pour l'éternité. Je vis dans l'attente de le voir face à face. Je ne vis pas dans l'attente de la mort, à essayer de passer quelques années en tirant le plus de plaisir de cette vie possible. Ce n'est pas comme ça que je vis. C'est comme ça que je vivais avant de connaître Jésus-Christ. C'est comme ça que les démons vivent. La seule chose qui leur apporte du plaisir, c'est de détruire ses vies. Vous n'avez pas besoin de vivre votre vie comme ça, si vous placez votre foi en Jésus-Christ. Ces démons avaient reconnu qui était Jésus-Christ. Ils le haïssaient pour cela. Ils le détestaient. Ce qui est fantastique avec Jésus-Christ, c'est qu'il a autorité sur les démons et sur tous les ennemis de nos âmes. Ils ont beau le haïr, et nous haïr, Jésus est beaucoup plus puissant qu'eux. C'est ça qu'on a chanté tantôt. C'est le cœur de notre foi, c'est que Christ a vaincu. C'est le cœur de notre foi. Et sa mission, c'est de nous arracher aux griffes du diable. Sa mission, c'est de nous sauver du prince de ce monde. Maintenant, Jésus le fait d'une manière assez fantastique. Ça devait être impressionnant. Il y a deux démoniaques qui viennent vers lui. On ne sait pas pourquoi. Je sais qu'il va y avoir des super théories qui vont venir vers moi tantôt pour m'expliquer pourquoi Jésus a fait ça. J'ai lu tous les commentaires bibliques. Veux-tu me dire pourquoi il a envoyé ces démons-là dans le troupeau de pourceaux? Je ne sais pas. Honnêtement, j'ai lu tous les commentaires. Il n'y a pas de super explication là-dessus. C'est vraiment un monde étrange pour moi. Mais il y a une chose que j'ai compris dans ça, par exemple. Jésus-Christ veut nous communiquer un message. Il veut nous dire quelque chose avec ça. Je pense que Matthieu nous le rapporte pour révéler le cœur de Jésus par rapport au cœur, par opposition au cœur des hommes en général. Voyez-vous, pour Jésus, libérer des êtres humains, des chaînes spirituelles, a beaucoup plus d'importance que tous les biens matériels. Et je pense que c'est ça le message de Matthieu. Je pense que ça nous est rapporté avec ce phénomène extraordinaire, bouleversant, incroyable. Est-ce que Jésus n'aurait pas pu simplement prendre autorité, il le fait plein d'autres fois, sur les démons? Pourquoi il leur a permis d'aller dans les troupeaux de pourceaux? Écouterez vos théories tantôt. Mais honnêtement, je pense que Matthieu veut souligner que pour Jésus-Christ, la priorité, au-delà de tous les biens matériels, ce sont les personnes à sauver. Des âmes à gagner pour Christ, des gens à aller arracher à ce monde de ténèbres pour leur faire connaître Jésus-Christ et son amour. Et je pense que c'est ça le message de Matthieu ici. Alors les démons supplient Jésus de les envoyer dans le troupeau de pourceaux. Jésus accepte, il leur commande d'y aller. Qu'est-ce qui se passe? Le troupeau de porcs au complet se pousse en bas du ravin, se jette dans la mer. Évidemment, ce troupeau avait des gardiens. Les gardiens sont effrayés. Se sauvent à la ville eux-mêmes. Ils s'en vont en ville. Ils vont dire aux gens de la ville ce qui s'est passé, puis les gens de la ville reviennent. Et qu'est-ce qu'ils font? Je ne comprends pas leur réaction. Je vous avoue, je ne la comprends pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent, puis ils disent à Jésus, « S'il te plaît, va-t'en! » Je ne comprends pas. Ils ne connaissaient pas ces deux démoniaques-là? Je veux dire, c'était-tu deux démoniaques, deux personnes qu'on avait importées d'ailleurs? C'était des immigrants, c'est quoi? Moi, je pense que c'était Tigus puis Alfred avec qui ils jouaient au ballon, au village. Non? Ces gens-là devaient avoir une histoire. Vous ne pensez pas? C'est des gens du coin, là, avec qui des gens du village avaient connu toute leur enfance. Il y a un homme qui arrive et qui les libère. C'est quoi leur réaction? Tu es en train de troubler notre économie locale. Hey, qu'est-ce que tu fais de nos placements? C'est vrai. Et je pense que c'est ça le message ici. Il y a des gens pour qui des porcs, des biens matériels, vont toujours être plus importants que des âmes et des personnes. Je vous pose une question. Comment les gens de la ville, essayez d'imaginer ça, on réécrit le texte ce matin un petit peu, comment les gens de la ville auraient réagi à l'égard de Jésus s'il était arrivé sur la côte, il voit ces deux démoniaques qui viennent, il a autorité, il peut les renvoyer dans leur sépulcre, hein? Il les renvoie là-bas, il les laisse tranquilles, continue à faire votre basse besogne, il se tourne vers le troupeau de porcs, et comme si c'était des pains et des poissons, il les multiplie par 10. Comment les gens de la ville auraient réagi? Si Jésus avait laissé ses démons tranquillement continuer à détruire ces deux êtres et qu'il s'était tourné vers le troupeau de porcs qu'il avait multiplié par 10, comment est-ce que les gens de la ville se seraient comportés envers Jésus? Moi, je pense qu'il aurait fait un petit caucus, ça n'aurait pas été long. Il y aurait à faire une belle maison, leur inviter à s'installer dans leur coin. Pensez pas? Un gros méchoui. Si Jésus avait été un sauveur sur mesure, selon les désirs de leur cœur, je pense qu'il l'aurait accepté. Je pense qu'il l'aurait aimé. Je pense qu'ils auraient voulu le connaître. Et voyez-vous, si vous cherchez un Dieu sur mesure, selon le désir de vos cœurs, vous ne verrez jamais la gloire de Jésus-Christ. Ces gens-là n'ont rien vu. Deux personnes qu'ils connaissaient probablement, qu'ils craignaient, qu'ils avaient abandonnées, ont été rescapées par cet homme. Ils n'ont rien vu de Jésus-Christ. N'ont jamais vu sa gloire, jamais vu sa personne, n'ont rien compris. Tout ce qu'ils ont vu, c'est leur placement qui vient de disparaître dans un ravin. Et tout ce qu'ils ont vu. Comment est-ce qu'ils auraient dû réagir? Il me semble qu'au village ou en ville, il aurait dû y avoir des discussions. « Hey, tu sais, Tigus puis Alfred, là, les deux gars, là, tu sais, là, il y a un homme qui est arrivé et il les a libérés. Il s'est occupé de leur âme et il les a libérés. Tout le monde en parle en ville. Tout le monde veut l'amener leur malade voir cet homme-là. Tout le monde veut entendre ce qu'il a à dire. Il me semble que c'est comme ça qu'ils auraient dû réagir, non? Et qu'est-ce qui se serait passé s'ils avaient réagi comme ça? Qu'est-ce qui se serait passé si ces gens-là étaient arrivés en courant à Jésus, se seraient jetés à ses pieds, lui auraient dit « Parle-nous, enseigne-nous, qu'est-ce que tu nous apportes là, c'est incroyable! » Sans se préoccuper, sans s'inquiéter. S'ils avaient entendu Jésus, s'ils avaient vu la gloire du royaume de Dieu qui est en train de venir au milieu d'eux, qu'est-ce que Jésus aurait fait pour eux? On vient juste de le lire dans Matthieu 6. Matthieu 6, verset 31, je pense. « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. » C'était des païens. On était vraiment en terre païenne. C'est leur placement qui les inquiétait. « Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Vous ne pensez pas que Jésus comprenait qu'il venait de défaire quelques placements bancaires? Jésus savait ça, voyons donc. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Pour connaître Jésus-Christ, il faut saisir que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Et que si Jésus est venu sur la terre, c'était un acte d'amour de la part de Dieu, un acte d'amour de la part de Christ. Et que sa priorité pour glorifier son Père, c'est de sauver des âmes. Ça va toujours être la priorité pour Christ. Et ça devrait être notre priorité. Ça doit être notre priorité comme Église, pas le bâtiment qui est ici, pas nos placements, pas ma retraite. Ah, je vais être un sage intendant, comme j'ai dit tantôt. Je vais gérer ces choses-là avec sagesse, bien sûr, bien sûr. Mais si je veux connaître la gloire de Jésus-Christ, le message, c'est que la priorité pour Christ, ce sera toujours les gens et les âmes qui périssent. Et si cette Église doit entrer dans la mission que Jésus-Christ nous a confiée, c'est parce qu'à chaque jour, à chaque moment, les gens vont être plus importants pour nous. Et leur faire connaître Jésus-Christ, et leur faire connaître la gloire de Christ. Nos énergies, là où va être notre cœur, notre trésor, là va être notre cœur. Le trésor de ces gens, c'était leur placement. Ce n'était pas ses amis qu'ils avaient perdus parce qu'ils étaient possédés de démons. Ce n'était pas ça leur trésor. Ils avaient déjà abandonné ces deux gars-là. Ils avaient un autre trésor, c'était leur placement à long terme. Et là, il y a une espèce de bonhomme qui est venu bouleverser l'économie locale en sauvant des âmes. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Frères et sœurs, si Dieu nous appelle à être une Église qui va représenter Jésus-Christ, c'est parce que notre priorité, ça va toujours être des personnes et aller les gagner pour Christ. Est-ce que c'est ça ta priorité? Est-ce que tu es empêché de voir la gloire de Dieu et ce que Dieu fait? Dieu fait des belles choses. Il y a des histoires à toutes les semaines où Dieu est en train de venir et sauver des âmes. Dieu le fait. Est-ce que tu es empêché de voir ça parce que ton cœur est consumé, tes énergies sont concentrées sur cette vie? Les démons nous rappellent ici que c'est éphémère, ça passe. Un jour vient où Christ paraîtra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts. Et notre espérance, ce n'est pas de vivre en attendant que la vie s'arrête. C'est en attendant d'entrer dans sa gloire et d'amener avec nous le plus d'âmes possible. On va aller ensemble dans un mot de prière pour terminer. Seigneur Jésus, je veux te confesser personnellement que je suis tellement souvent préoccupé par tant de choses, Seigneur. La vie ici en Occident roule à une vitesse incroyable et emportée par cette course, Seigneur, j'oublie trop souvent des gens qui ont besoin de te connaître, qui ont besoin que je bouleverse mon agenda, que je fasse un mille de plus malgré la fatigue pour me pencher vers eux, pour les entendre, pour les écouter, pour aller à leur rencontre, Seigneur. Je le confesse, ô Dieu. Mais je veux te connaître, Christ. Je veux te connaître et connaître ton cœur et ton amour pour les gens. Et je veux leur faire connaître ce Seigneur merveilleux qui est venu chasser les ténèbres dans ma vie, dans mon cœur. M'amener le pardon de mes péchés. Cette paix de savoir que je suis réconcilié avec toi et que j'ai un Seigneur sur ma vie. Seigneur, je te prie de saisir nos cœurs, saisir les cœurs de cette assemblée, afin que nous ne vivions pas comme les païens, mais que nous vivions comme des fils de notre Père céleste, à l'image de Jésus-Christ. C'est en son précieux nom que nous te prions. Amen.